Voilà, bon après-midi à tous, que le Seigneur nous bénisse encore et qu'il ouvre encore nos cœurs, qu'il ouvre nos yeux, nos oreilles en merveille de sa loi, comme dit l'Écriture. Voilà, ce matin, nous avons eu le temps de parler, on a eu à partager, c'était juste une introduction. Et nous allons essayer de faire un pas de plus par rapport à la pensée que le Seigneur a donnée pour cette journée. Je pense qu'il y a beaucoup de chrétiens, même pas ceux des États-Unis, parce que je viens de là, il n'y a pas longtemps que j'étais là. Beaucoup ne connaissent pas que sur la liste des organisations terroristes des États-Unis figure en premier lieu l'Église évangélique. Ça peut vous étonner. Mais pourtant, c'est ça. Vous allez me dire, comment est-ce possible? Mais pourtant, il y a des gens, il y a la liberté, tout ce qui s'ensuit. Mais non. Parce que l'Église évangélique est considérée comme une nébuleuse. Et oui. La raison, c'est le renseignement. Parce qu'ils enseignent que l'homme doit avoir une relation avec son Dieu. Et ils ne trouvent pas leur place pour contrôler cet homme. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on les laisse aller à l'église? Et vous voyez, même ceux qui n'y croient pas comme les hommes d'État, aller vers l'église, c'est pour l'électorat, c'est tout. Auquel cas, parce que 80% d'Américains déclarent qu'ils prient, qu'ils sont chrétiens, donc on ne peut pas cracher sur cet électorat, on perd les élections. Ils y vont, mais juste pour être vus. Mais leur pensée, ce n'est pas ça. Et oui, nous enseignons ce qui est important pour chaque personne, c'est d'avoir une relation authentique avec son Créateur. On n'a pas besoin de pont. Mais il a établi des hommes qui peuvent nous conduire avec l'autorité que nous devons respecter. Ça, c'est autre chose. Le fait est là, si la parole pouvait disparaître avec toute son autorité, il serait bien content. Alors parfois, au travers de la manipulation de la pensée, on essaye d'en contrôler ou donner des sens qui les arrangent à cette parole. Mais nous savons que la puissance de la parole et son autorité est telle que Dieu accompagne cette parole. Il révèle à ses enfants ce qui est caché. Et il les fortifie au travers de la parole. Et c'est pour cela que nous, en tant que chrétiens, quelle que soit notre dénomination, nous acceptons l'autorité de la parole, dans sa dureté peut-être, mais aussi et surtout dans sa pureté. Je vous disais ce matin que la seule manière de maintenir la porte des cieux ouverte, selon la parole du Christ et Jésus à l'apôtre Jean, c'était de garder sa parole. Alors, cette parole convient d'être décryptée. J'étais sur le point de commencer à vous parler de l'économie parfaite de Dieu. En vous montrant que, avant qu'un problème ne paraisse, Dieu a déjà prévu une solution. Et ça, c'est l'économie de Dieu. Lorsque vous regardez le livre des psaumes, chapitre 8, la Bible déclare « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils d'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur aux anges, et tu l'as couronné de gloire. » Ce qui est étonnant, c'est qu'on couronne quelqu'un de gloire après qu'il ait remporté la victoire. Mais ici, avant même que l'homme n'ait combattu, il est déjà couronné. C'est étonnant. Ceci fait que le dessein de Dieu, c'est cela. Il connaît le commencement des choses, il connaît aussi la fin. Ainsi, nous voyons que l'homme va chuter, Dieu prévoit déjà les rédemptions. Il met toute une machine en route. Pour vous en convaincre, regardez très bien le récit de la création. Deux chapitres dans la Bible. Tous les pays qui existent, les astres, machin, tout. Deux chapitres. Le chapitre premier et le chapitre de la Bible. Étonnant. Deux petites feuilles pour toute la création. À partir du chapitre 3 jusqu'à la fin, on ne parle que de la rédemption. Alors, tout le machin, gros comme ça, rien que sur la rédemption. C'est pour dire que la chute était quelque chose de catastrophique. Pour que Dieu mette autant d'énergie, autant de force pour arriver à la rédemption. C'est vrai que si vous ouvrez la Bible, vous voulez en savoir plus sur la création. Vous sortez les étoiles et tout ce que vous voyez, les humains, les beaux arbres, les fleurs et tout ce qui sont suivis. Chapitre 1er, chapitre 2 de la Bible, c'est fini. Ah ben, il sort tout par la parole, tout est créé, et puis fini. Mais le reste, la réparation de la création. Le reste, la réparation de la chute, des sacrifices, etc. Mais Dieu s'y met. Pourquoi ? Parce que c'est vrai. Peut-être une petite parenthèse que je vais ouvrir. Au moment où il crée, où il manifeste sa création, il s'appelle Elohim, qui est Dieu dans sa rigueur, la rigueur de sa création. Et la rigueur de cette création est telle que si le soleil s'approchait de quelques centimètres de la terre, tout serait cramé. Aucune vie ne serait possible. Si le soleil s'éloigne de quelques centimètres de la position qu'il occupe, eh bien tout gèlerait. Aucune vie ne serait possible. Mais tout tourne dans une harmonie tellement parfaite que les astres ne se cognent pas. Le soleil est toujours dans son orbite. La Terre, la même chose. Et quand vous regardez le reste de la création, je n'ai jamais vu un oiseau aller à l'université pour apprendre à voler. Ni un poisson à savoir comment il faut nager avec des bouées de sauvetage, jamais. Pourquoi ? Parce que de par leur création, ils vivent la plénitude de la vie de Dieu. C'est tout. Mais l'homme, c'est la seule créature qui a désobéi et qui désobéit à Dieu. C'est étonnant. C'est la seule créature, je vais dire le seul animal qui détruit ce que Dieu a fait. Croyez-moi. Ah, je disais à quelqu'un une fois que, bon, moi j'ai jamais vu, par exemple, et une baleine qui va donner des coups à sa femelle pour une raison quelconque. Il n'y a que les hommes qui frappent leur femme. Ou alors qui échangent des mots durs. C'est pas possible. J'ai jamais vu des antilopes aller enlever les petits d'autres enfants, les tuer, les massacrer, faire des guerres. Bon, c'est étonnant. Mais l'homme, oui. Alors imaginez si l'homme devait rapprocher Dieu dans sa rigueur, l'homme serait détruit. C'est pas possible. C'est pour cela que Dieu, pourtant ayant créé l'homme qui est le fleuron de sa création, ayant chuté de cette manière, pour pouvoir l'accepter, il a dû développer un autre niveau. Partir de sa rigueur et développer le niveau de la miséricorde. Je pense que vous serez avec moi Si je vous disais qu'il est difficile d'aimer quelqu'un qui vous a fait du mal, la seule façon de l'aimer, c'est de déployer beaucoup d'amour. Il n'y a pas 36 façons. Autrement, bon, vous passez d'une tête de destruction à une autre, vous vous détruisez mutuellement. La seule façon, c'est de développer un niveau de miséricorde. Et Dieu a développé ce niveau de miséricorde de telle manière que l'homme revienne encore. Ça, c'est un acte d'amour. Regardez à travers le monde. C'est toujours l'homme qui fait des guerres, c'est toujours l'homme qui détruit, qui fait... Il fait tout. Mais aucune autre créature. Aucune. Alors, ce niveau de miséricorde, c'est vrai, on peut l'associer à la grâce, mais ce n'est pas le sujet. Mais Dieu, prévoyant donc la rédemption, le niveau de miséricorde met en route tout un programme, un processus. Le voilà, il appelle Abraham. Je vous ai parlé ce matin de ce qui s'est passé après le cycle des violences. Il fallait tout balayer, recommencer avec Noé. Et après Noé, et encore, l'homme est entré dans d'autres cycles de violence. Il y a eu une succession d'événements. Mais Dieu prépare ce qu'on appelle la tikkun en hébreu, la réparation de la création par la prière. Bon, je vais peut-être y revenir un peu plus tard. Ok, mais encore faut-il savoir comment prier, parce que bon, la prière est une science. Elle répond à des lois bien précises, la loi de la prière. Il va susciter des patriarches, d'Abraham à Isaac, qui donne naissance à deux enfants, Ésaü et Jacob. Mais c'est avec Jacob qu'il va créer une nation, Israël. Je pense que je vous avais déjà expliqué un nom, une mutation, le changement de Jacob à Israël, avec un contenu. Je voudrais peut-être ouvrir une petite parenthèse très importante ici. C'est que Jacob était l'homme spirituellement et physiquement équilibré. Et la manière de Dieu de cacher sa sagesse dans la parole, c'est qu'un nom est porteur de tout un programme de Dieu. Et nous comprenons pourquoi, entre autres choses, qu'il est écrit que l'homme nous a fait, Dieu nous a fait à son image, à sa ressemblance. Parfois on s'interroge, quelle est l'image et la ressemblance de Dieu en nous? C'est tellement évident que lorsqu'il va appeler Jacob, qui a donné naissance aux 12 tribus, Israël deviendra le microcosme de l'humanité, parce que Jacob et les 12 tribus, c'est le patriarche qui a eu 4 femmes qui ont donné naissance aux 12 enfants. En d'autres termes, le microcosme de ceux qui devaient rentrer dans le royaume venant de toutes parts, de différentes femmes. Et ça, c'est déjà très intéressant. Mais lui-même, Jacob. Chaque lettre hébraïque correspondant à un chiffre bien donné, le nom Jacob, ça donne exactement 182. Mais pourtant, 182 montre l'image de Dieu en l'homme. Parce que chaque être vivant, disons, vous et moi, chaque personne sur la terre a 182 os. Exactement. 182 qui est une répartition de 26 fois 7. Je peux vous donner le nom de tous les os, il n'y a pas de souci. Mais les médecins sont là pour ça. Et je ne vais pas m'arrêter là-dessus. Pourquoi 26? Parce que le nom de Dieu lui-même, Yahweh, La valeur numérique, lorsqu'on somme ces lettres-là, ça fait 26. Ou 2 fois 13. Parce que celui qui est 1, Erad, ça fait 13. Et puis il est Amour, donc le niveau de miséricorde, ça fait 2 fois 13. Je peux vous en dire encore davantage. Oui, tout à fait comme Yeshua qui viendra de la tribu de Judas. Mais c'est bien. Ça part bien entendu de Yad qui est la main, mais la main Yad, ce qui est étonnant, a 5 doigts. Mais pourtant, chaque main, les doigts de chaque main ont 14 phalanges. Et pourtant, Yad, c'est 1 plus 4. Ça fait 14. Et 1 et 4, ça fait 5. Tout à fait. Et il donnera bien entendu la parole de Dieu sur 2 tables, mais sur chaque table, il y en avait 2 fois 5, ça fait 10. C'est vrai que de l'autre côté aussi, on voit que quelque part, on dit qu'autour du trône, il y a 24 vieillards qui sont en train de jeter leur couronne. Je vous en ai expliqué la cause. Et qui disent 24 heures sur 24, Saint, l'Éternel, Dieu des armées, tout ce qui s'ensuit. Bon, on le voit aussi dans le livre d'Ésaïe, chapitre 6, etc. Tiens, il est assis sur son trône et voilà les 24 vieillards qui sont en train de l'adorer. Mais enfin... qui sont ces 24 vieillards? Et où se trouve ce trône de Dieu où il est assis? Nous comprenons très vite que l'homme a 12 côtes d'un côté et 12 de l'autre. Ça fait 24. Et puis le cœur est bien au milieu en train de battre 24 heures sur 24. Et personne au monde, aucun scientifique n'a le contrôle sur le cœur. Il bat quand il veut. Et le jour qu'ils décident d'arrêter, ben ils peuvent tout faire. Ils ne peuvent rien foutre. Et finalement, le trône de Dieu, finalement, où il veut s'asseoir, où il veut rester, mais c'est votre cœur, c'est le mien. C'est pour ça qu'il réclame nos cœurs. Parce que c'est son trône. Alors on peut aussi poser la question de savoir qu'est-ce qu'il y a sur ce trône-là. Alors qu'il dit que son trône, c'est un trône d'équité et de justice. L'équité, c'est l'opposé de l'iniquité, tout simplement. Donc, tel que je suis, tel que vous êtes, alors la parole devient encore plus claire. Jésus le dira aux pharisiens, n'est-il pas écrit que vous êtes de Dieu? Mais pourtant, vous mourrez comme des princes quelconques. Ça veut dire aussi qu'en tant qu'Église, nous sommes dans une terrible crise d'identité. On ne se connaît pas. Ou du moins, c'est l'état de l'Église des temps de la fin, l'Église du monde. L'Église qui s'arrête juste sur les us et les coutumes, les usages, les méthodes. L'Église qui ne veut pas bouger avec celui qui l'a créé. Finalement, l'Église qui veut aussi donner de leçons au Créateur lui-même. Quand il veut agir, non, attends, fais pas comme ça. Si tu dois agir comme ça, si tu agis autrement, nous n'est pas d'accord. Alors, c'est pas toi. On oublie souvent qu'un souverain, son rôle, c'est qu'il peut changer les lois quand il veut et comme il veut. Personne n'a à lui demander des comptes. C'est ça, un roi, logiquement. Voilà. Ou du moins, à l'époque, c'était comme ça. Est le Seigneur, notre Dieu, est le souverain propriétaire de sa création, qui veut en faire ce qu'il veut, qui veut nous conduire là où il veut. Mais l'homme, comme par nature, est rebelle. Et c'est comme ça que nous voyons qui va maintenant susciter Jacob, dont je viens de vous donner toute la signification spirituelle. Dieu veut, il affecte un destin à cette nation pour conduire la planète entière dans sa lumière, dans son destin. C'est ça la vocation d'Israël. Y compris ceux-là qui rentrent dans le royaume. comme je vous l'ai expliqué. Mais bon, ce n'est pas le sujet cet après-midi. Et par la suite, nous voyons ces 12 tribus commencer à se développer, à conduire, et qui va se retrouver, son peuple, dans une situation extrêmement compliquée. La captivité qui devait durer 4 siècles. Pour des raisons que je pourrais vous expliquer. Et forcément, cette nation devait passer par là. Beaucoup de gens ne comprennent pas, mais c'est pour des raisons évidentes. Mais ce qui va se passer, c'est que bon, il suscite des prophètes, notamment Moïse. Moïse reçoit le don de la Torah dans des conditions que tout le monde connaît. C'était 50 jours après la sortie de l'Égypte. Et il reçoit donc ces 2 tables, mais la parole arrive sous forme de lettres de feu. Très bien. Le temps passe à la Pentecôte, ce qui est étonnant. Une des fêtes principales qui était établie en Israël, c'était justement la fête des semaines, qui était la fête de la réception de la Torah. Et à la même fête, à la Pentecôte, pendant cette fête de semaine, voilà que les disciples du Seigneur sont dans la chambre haute. Une fois de plus, le feu descend. Mais cette fois-là, ce n'était pas un feu ordinaire, et il descend sous forme de langue de feu pour dire la parole que vous aviez reçue sous forme de lettres de feu est destinée à être annoncée avec vos langues, vos bouches, sous forme de paroles de feu. Des paroles qui changent, des paroles qui transforment. Et le grand drame pour le christianisme et pour l'Église de la fin des temps, c'est que ce feu ne brûle pas. Parce que si vous avez le feu dans la bouche, vous allez vite le recracher, vous allez vite courir pour témoigner. Si vous avez le feu dans la poche, faites une expérience, vous allez sauter sur vous-même. Parce qu'on ne peut pas garder le feu. Mais pourquoi l'Église ne sort pas pour aller témoigner, pour aller libérer ce feu? Parce que l'Église s'est refroidie. Le feu de la parole? Non. Mais pourtant, je venais de vous dire le matin que bon, parce que tu as gardé ma parole. Mais écoute, la parole de feu, je dis souvent aux jeunes ministères, auxquels je parle assez souvent, que malheureusement, on ne fait pas un ministère avec des dons. C'est triste pour beaucoup. Ils pensent que parce que j'ai un don, je vais commencer un ministère. Quelle grosse erreur! Ce qui est surprenant, c'est que le premier qui écrit l'Apocalypse, la première Apocalypse, c'est le prophète Ézéchiel. Oui. Il va lui dire dans le chapitre 3, prends ce rouleau, mange. Après avoir mangé le rouleau, il va lui dire maintenant, va et dis. C'est la procédure. Pour aller parler de la part de Dieu, aller annoncer ses oracles. La première des choses, je dois manger la parole qu'il te donne. Les dons, c'est quoi? C'est juste un instrument pour exprimer ce qu'il a mis en toi. Les signes et les prodiges, pour témoigner du message, de l'authenticité du message qu'il a mis en nous. À ce moment-là, on le met à l'extérieur. C'est le processus. Tout à fait comme n'importe quelle assemblée, quelle que soit la dénomination, il y a sûrement une parole que Dieu a donnée. Et sur cette base-là, sur la base de la parole que cette assemblée ou qu'un homme a reçue, à ce moment-là, il donne les dons appropriés pour pouvoir sortir, pour pouvoir témoigner. Alors, souvent, j'ai dit aux gens qu'on ne comprend même pas l'appel de Dieu qui est en deux phases. Il dit ceci: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et alors, quand il a fini de nous donner du repos, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chauffer les mains? Non. La suite, c'est quoi? Allez et faites de toutes les nations des disciples. Mais cette partie-là, on ne l'aime pas tellement. Dans l'expérience apostolique, j'ai remarqué une chose. Dès que les gens sont habitués à l'église, ils ne veulent plus sortir. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur du monde en disant « ils vont nous suivre ». Mais ils oublient qu'ils viennent de là. Et ceux qui témoignent, généralement, ce sont des nouveaux. Dès qu'ils font l'expérience du Seigneur, ils ont envie d'aller à l'extérieur. Ils disent « mais écoutez, venez, venez là où je suis, j'ai découvert quelque chose que vous ne connaissez pas. » Eux, ils sont efficaces. Venez dans mon église, venez, parce que ce que j'ai expérimenté, c'est pas possible. Ce que j'ai entendu, je ne l'ai jamais entendu quelque part. Parce que... Voilà. Mais dès que quelqu'un est bien habitué, dans le confort, voilà, malheureusement, ceux qui aimaient le confort dans le désert, ils sont tous morts. Et il faut savoir bouger avec la nuée quand elle bouge. Mais souvent, les chrétiens, quand la nuée bouge, ils disent non. Et c'est comme on dit, l'ennemi d'un réveil, c'est toujours le réveil précédent. Parce que les gens disent non, Dieu s'est révélé à nous de cette manière, il ne faut plus sortir de là. On lui met un carton, on dit, Saint-Esprit, il ne faut pas sortir de là, parce que sinon c'est plus droit. Et comme le Saint-Esprit est Dieu, il dit, ok, reste avec votre truc, on laisse là, et on reste dans les méthodes, puis un jour là, on voit l'église se vide, écoute. Mais le Seigneur, où est-ce que tu es? Dis-moi, je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement, j'ai jamais changé. C'est vous qui avez changé. C'est tout. J'en ai fait de ces expériences telles que vous sentez que Dieu est en train de vous conduire dans la louange. On tape dans les mains. C'est évangéliquement correct. Arrêtez, nous allons donner la parole. Et puis, vous sentez que c'est sec. Parce que bon, il est en train de vous, il veut la louange. Vous lui dites, non, c'est, écoute, on doit enseigner. Mais si on est sensible à l'action du Saint-Esprit, il veut louer, mais laissez louer jusqu'au bout. Pas de problème. Il y a des jours où il vous dit, écoutez, donnez la parole, mais il ne faut pas hésiter de donner la parole, hein, moi c'est tout. Alors, une fois contrarié, bon, il est tellement sensible, il dit, ok, c'est votre truc, bon, enfin, si vous revenez, là, vous m'avez laissé, vous allez me retrouver. Ça, c'est là. Ainsi, pour aller encore un peu plus loin, parce que nous avons compris aussi comment les choses opèrent, que Dieu s'est investi lourdement dans la création que nous sommes, avec tout, il veut vivre, et bien assis sur son trône, qui est notre cœur, ça, nous l'avons compris. Et voilà qu'Israël va sortir de la captivité sans armée. Parce que je ne vois aucun oppresseur qui donne une armée à son esclave. Et ils oublient très vite que c'était par la main puissante de Dieu. C'est pour cela qu'il leur dira dans le chapitre 3 du livre d'Exode, à partir du verset 19, bien que Dieu appelle cette nation mon peuple, le peuple élu, il va dire que Pharaon ne vous laissera pas aller si ce n'est par l'intervention puissante de ma main. Et j'étendrai ma main sur lui, après il vous laissera aller. Déjà, même si on s'appelle enfant de Dieu, Dieu fixe qu'il a besoin d'étendre sa main sur un individu, chaque personne, même enfant de Dieu, a besoin de délivrance. C'est Dieu qui le dit, c'est pas moi. Il était son peuple, mais son peuple est en captivité. Et il dit, je vais étendre ma main sur lui. Donc la délivrance, elle est nécessaire dans la vie de tout enfant de Dieu. Quand elle est nécessaire. Eh bien, les voilà. ils commettent exactement la même faute qu'Adam. Quelle était la faute? 1. Dieu établit déjà son économie, qui est parfaite. Il va dire ceci à Moïse. Vous me bâtirez un tabernacle selon le modèle que je t'ai donné. Un seul visionnaire, mais plusieurs bâtisseurs. C'est comme ça qu'il marche. Et en plus, ce n'est pas un visionnaire qui construit, ce sont ses enfants. Tout à fait comme David va essayer de construire un temple pour Dieu. Je vais construire ton temple. Il lui montre le modèle. Il dit, ce n'est pas toi qui vas construire ce temple, c'est ton fils. Parce que lui, il était visionnaire. C'est le fils qui devait construire. Ok. Ce n'est pas tout. Les voilà qui choisissent de construire un veau d'or. En d'autres termes, il refuse de marcher selon le modèle de la Torah, de la parole qu'il leur avait donnée. Ça a toujours été la difficulté de l'homme. En ce compris l'Église des temps de la fin, refuser de marcher selon la Torah, selon le modèle de la parole avec toute son autorité. Chacun veut avec son sens, selon ce qui l'arrange, selon l'interprétation qui le favorise, ou pour justifier un appel quelque part. Ok. Et soudainement, la colère de Dieu tombe. Beaucoup ne savent pas qu'Israël était passé à côté de la destruction totale. Pourquoi? Laissez-moi vous dire une chose. C'est que le veau d'or, et vous allez comprendre pourquoi la colère de Dieu, en hébreu, c'est Agol Zahav. Alors que la pièce d'or, c'est Egol Zahav. Agol et Egol. Le reste, c'est pareil. Dieu tient. Mais l'or, c'est quoi? C'est le symbole de la richesse. Mais que représentait le veau à ce moment-là? La puissance militaire. Ils avaient oublié qu'ils avaient été libérés non pas par la puissance économique, ni par la puissance militaire. Il me semble que dans la suite, jusqu'à aujourd'hui, les gens pensent que c'est la puissance économique et la puissance militaire qui assurent leur sécurité. Quelle injure à Dieu! Quelle injure au Tout-Puissant! C'est là que Dieu avait dit non, 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 ça fait trop. 3000 morts. En un clin d'œil. En même temps, nous trouvons la difficulté jusqu'à aujourd'hui, dans laquelle l'Église des temps de la fin se trouve. Pouvoir construire une puissance militaire et une puissance économique, ça s'appelle, je pèse bien les mots, ça s'appelle le refus du message divin. Qui vient en opposition à la pensée de Dieu. Et cette opposition entre le message divin et le politique, nous y vivons jusqu'à aujourd'hui. D'où, vous pouvez l'imaginer, ce qui se passe aujourd'hui, la séparation entre l'Église et l'État. C'est le discours auquel vous avez l'habitude. Ça a commencé là, exactement, à la fabrication du veau d'or. Nous sommes dans la parole de Dieu. Et pourtant, Vous allez comprendre pourquoi Dieu avait permis qu'Israël puisse demeurer 400 ans en captivité en Égypte. Parce que l'Égypte donnait un des trois noms des fils de Ham, Misraïm, il y avait Cush, Misraïm et Nimrod. Ok ? Misraïm, ça veut dire l'étroitesse du monde matériel, justement. Il fallait purifier cette nation qui devait avoir la destinée, le destin de conduire l'humanité entière et se séparer, être purifié de cette influence du matérialisme. 400 ans pour la purification. Où sommes-nous aujourd'hui? On a l'impression aussi que la spiritualité d'un grand nombre est basée sur les besoins de l'homme. Fais ci, tu seras cela. Fais ceci, tu deviendras ceci. Mais où est Dieu? Où est sa part? Où est l'honneur? Si vous êtes fils, comme il dit, quel est l'honneur que vous me donnez en tant que père? C'est autant troublant qu'intéressant. Cette église des temps de la fin doit apprendre à bien connaître la différence qu'il y a dans ce monde dans lequel nous sommes en train d'être traînés de plus en plus. Et j'aimerais peut-être que nous puissions lire ensemble une portion d'écriture. Parce que ça fait très évangélique quand on ouvre la parole et qu'on lit. Alors que ce qui est important, ça devait être de la foi à l'intérieur. Parfois, les gens oublient que cette parole qui est sur les pierres, il faut que ce soit sur une table du cœur. Donc ça doit couler normalement. Nous regardons le livre de la Genèse. La femme de chapitre 25 plutôt. La femme d'Isaac, Rebecca, est enceinte. Alors, elle sent qu'il y a un mouvement très fort dans son ventre. Elle crie en disant, qu'est-ce qui se passe? La voilà qui va aller chez l'échographe de tous les temps. Il dit, mais attends, il y en a deux. Donc c'est pas l'homme qui a inventé l'échographie, il y en a un qui allait le mettre. Et il dit, tiens, il y a deux enfants. Oui, ça c'est la perception humaine. Mais l'échographe lui-même dit, non, c'est pas deux enfants, c'est deux nations. Le niveau de compréhension de l'homme, c'est toujours au plus bas. Il n'arrive pas à s'élever dans des choses qui sont sublimes, dans des choses qui sont extraordinaires. Évidemment, il la corrige en disant, non, c'est deux nations. Voilà Ésaü qui arrive avec Jacob. Et la suite, nous connaissons. Il va venir dans le verset 30, commençant par 27. La Bible dit, ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs. Mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Étonnant. Alors, qu'est-ce qu'il faisait dans les tentes? Pendant ce temps, son frère, lui, il était dans les champs. Ça arrive, il y a des enfants comme ça, turbulents, c'est difficile de le garder dans la maison. Si vous réfléchissez, vous méditez sur le mot tente, qui veut dire demeure, ok? Ou bête, la maison, En hébreu, vous allez comprendre beaucoup de choses. Lui, il était appliqué à étudier. Parce qu'il n'y a que l'étude qui vous élève. Voilà. Et surtout l'étude de la parole. J'aime dire aux gens, permettez-moi de vous lire le psaume 78. C'est un psaume que j'aime beaucoup et je pense que vous allez aussi l'aimer. 78, verset 23, voici ce que dit ce psaume. Il commanda aux nuages d'en haut et il ouvrit les portes des cieux. Il fit pleuvoir sur eux la manne pour nourriture et leur donna du blé du ciel, le blé du ciel. Ils mangèrent tous le pain des grands et il leur envoya de la nourriture à satiété. Pour comprendre que la parole de Dieu, ce n'est pas fait pour les hommes ordinaires. Pas du tout. Elle est destinée aux personnes spéciales, telles que vous êtes. Parce que la Bible l'appelle la nourriture des grands. Dans d'autres versions, on dit que c'est la nourriture des puissants, parce que c'est lié à la Pentecôte. Et c'est en même temps lié à la puissance de la croix, la position que nous occupons en Dieu. C'est celle-là qui nous donne de la grandeur. Pardonnez-moi de vous dire qu'à cet instant, vous êtes en train de manger de la nourriture des grands. Je peux fermer cette parenthèse si vous le permettez. Voilà donc que ces enfants ont grandi. L'un est appliqué à l'étude. Et il fera la différence. L'autre, oui, s'il est très occupé par les affaires de la terre. Aller chasser du gibier, oh, c'est bon goût, qu'on peut manger avec n'importe quelle épice, tout le temps. Voilà. La Bible continue en disant ceci. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. » J'aime la manière dont c'est rendu dans les versions beaucoup plus anciennes. Parce que là, ce n'est pas dit « Donne-moi de ce roux-là, donne-moi à manger. » Non, 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 on dit « Gave-moi. » C'est encore plus grave. Un petit peu comme on gaverait un canard. Qu'est-ce qui se passe? Ce que là, on établit qu'il avait un désir irrépressible de satisfaction des besoins du corps. À longue échéance, et c'est ça la société des consommations. Et puis, c'est pas fini. Gave-moi! Laisse-moi manger de ce roux-là. Donc, il ne s'occupe même pas de définir exactement ce que c'est que ce roux. Parce que cette société de consommation est telle que les hommes sont obnubilés par l'aspect extérieur de ceux qui veulent consommer sans savoir ce que c'est. Une série de principes. Je suis fatigué. La civilisation du loisir. On veut des facilités. En toute chose. Ah ben, aux États-Unis, je leur ai dit ceci. On est dans une époque où on veut tout light. Le coca, light. Le lait, light. L'évangile, light. La paix, instantanée. Le café, instantané. Le bonheur, instantané. Mais il me semble que le royaume des cieux appartient aux violents. Et ce sont les violents qui s'en emparent. C'est ce que dit l'Écriture. On n'a pas le royaume des cieux dans la paresse. Il faut le faire descendre. Ça demande du muscle, du travail. Parce qu'on ne le gagne pas au chômage en allant pointer tous les matins à la mairie, non. Pas du tout. Dieu attend que nous, le royaume des cieux, il est à conquérir. Car je suis fatigué. Le développement à l'extrême du sens du paraître au lieu de l'être. Paraître ! La dernière méthode évangélique. Non, 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 ça ne marche pas comme ça. Et ça, il faut que l'Église le comprenne. Dans le domaine spirituel, ce n'est pas du copier-coller. Non, 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 non. J'ai un appel qui peut être semblable à celui de quelqu'un d'autre, mais c'est jamais authentique. C'est jamais plutôt identique. Jamais. C'est jamais identique. Tout à fait comme chaque prunelle de chaque œil est différente des yeux de toute autre personne. On n'a jamais les mêmes empreintes à ce niveau-là. Jamais. Chaque personne, sur toute la terre, a ses propres empreintes. Et ça, on n'a pas besoin de le développer. C'est pour cela, la parole dit, qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Mais ce qui est étonnant aussi, c'est que dans la culture orientale, c'est le fils aîné qui devait hériter de son père. Mais ici, quel est le problème? Il va vendre son droit d'aînesse. Allez, pour un plat de lentilles, je vais vous expliquer. Le plat de lentilles, c'était un plat de deuil. Vous savez, après l'enterrement, qu'est-ce que les gens font? On amène des sandwiches, hein, du café. Bon, là, c'est pas la gastronomie, hein. Ok, on a chacun un café sans sucre, avec sucre, il y en a qui demandent du lait, tout ce qui s'en fout. Et le plat de lentilles s'était donné. C'était un plat de deuil. Comment est-ce qu'on peut vendre le destin spirituel pour les choses de la terre? C'est incroyable. Donc, en vendant Ésaü s'est libéré de toutes les contraintes spirituelles liées à la mission d'Israël pour s'ancrer dans une représentation matérialiste des destinées humaines. Et parfois, on le fait avec des bonnes manières. Parce que regardez dans sa demande. Je te prie, ce sont des bonnes manières. Allez, tout à fait comme lors de la Shoah, on voyait que les gens aller au peloton d'exécution, mais avec des gens des mains gantées, mais plus la fanfare. Ah, des bonnes manières, tiens. Ok. Et c'est vrai que, bon, Jacob, comme je viens de vous dire, tel que c'était prévu, finalement, c'était l'homme spirituel. Et c'est comme ça que Dieu va choisir de le prendre pour le conduire dans le destin de l'humanité qui deviendra Israël, d'où ceux qui viennent, des étrangers viendront aussi être greffés. Et pour image, vous allez voir, c'est comme ça que dans le cortège de Moïse, il y avait Zéphora, Yitro, qui étaient aussi des Africains, mais qui ont fait partie d'Israël qui est sorti de l'Égypte. Parce que la réparation même de toute la création n'est pas possible, elle ne sera pas complète tant que ceux du dehors n'entreront pas. Ça, c'est le plan de Dieu. Il n'y a pas qu'Israël seul. Ça, ils le savent. J'ai prêché à la synagogue il n'y a pas longtemps, je leur ai dit. Ils étaient tous d'accord avec moi. Ok. Et ils m'ont encore invité pour aller prêcher chez eux. J'irai. Voilà. Donc, si nous comprenons et nous saisissons ces choses, nous pouvons nous poser la question. Est-ce que l'Église des temps de la fin, est-ce qu'elle n'agit pas comme Ésaü? Refuser le destin. Quitter la mission spirituelle qui est de première importance, de premier ordre. De pouvoir sauver les âmes. Ceux qui sont dans la souffrance. Je vais mettre une petite parenthèse ici. Ça fait déjà beaucoup de parenthèses. Ouais. Mettons, je la ferme celle-là. Que Dieu maintenant, dans cette perfection de l'économie, va donc demander à Moïse, tu vas me construire le tabernacle. Et je vais te donner les mesures. Tu vas le construire selon les mesures que je te montrais sur la montagne. Entre autres choses, tu vas placer sur ce tabernacle un propitiatoire. Et sur ce propitiatoire, tu mettras deux chérubins, l'un en face de l'autre avec des ailes déployées se touchant. Et moi, je viendrai au milieu de ce propitiatoire. C'est là que je viendrai de donner des ordres à Israël. Et ce propitiatoire devait être un propitiatoire d'or. Nous voyons pourtant l'accomplissement prophétique et ce symbolisme, ce qui était caché derrière par Dieu au travers de sa parole. Parce que le propitiatoire, qu'est-ce que c'est? Sinon un couvercle. Dans le livre de Jean, chapitre 20, à partir de versets 10 et 11, étonnamment, Jésus vient à mourir. Et Marie, la femme, vient dans le tombeau. Qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit là où le Christ était couché, le Seigneur, un ange, un à la tête et l'autre au pied. Waouh! Mais finalement, qu'est-ce que c'était que le propitiatoire? Ce couvercle-là, c'était le symbole du Christ et Jésus. Ce qui est étonnant, c'est que le mot apocalypse, apocalypsis, en grec, veut dire, non pas comme la définition que les humains donnent quand ils parlent d'apocalypse, c'est vraiment l'apocalypse. Dans les têtes de beaucoup, c'est des bombes, tout explose, tout est détruit sur le passage, c'est l'ouragan, c'est la tempête et tout ce qu'on veut. Alors que le mot apocalypse veut dire enlever le couvercle pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ce couvercle, ce propitiatoire, sur lesquels étaient les deux chérubins, l'un en face de l'autre, c'était Jésus-Christ, qui est la révélation de Dieu lui-même, qui peut vous conduire dans n'importe quelle profondeur de la parole et de la connaissance de Dieu. C'est pour ça qu'il n'y a pas véritablement de grande profondeur et la révélation de Dieu sans passer par ce propitiatoire. Il faut que Christ Jésus, qui est la clé de David, vous ouvre les portes des cieux, mais aussi les portes de la terre, vivant dans deux dimensions différentes. Et c'est comme ça qu'il nous a réduit, au travers de la puissance de la croix, au travers de l'œuvre de la croix, dans la position de haute spiritualité, où étaient Adam et Ève. Ils voyaient Dieu et Dieu les voyait. Si vous permettez encore une petite parenthèse, c'est que le plus haut niveau de spiritualité, c'est la fin. Je répète, le plus haut niveau de spiritualité, c'est la fin des choses de Dieu. Évidemment, parce que la même parole nous dit que celui qui est rassasié foule les rayons du miel à ses pieds. Et ça, c'est dans le livre des Proverbes. On ne va pas donner à manger à celui qui est rassasié parce que, bon, très vite, ça va à la poubelle. Quand quelqu'un a faim, il ne laisse rien sur la table. Et quand on a faim et soif des choses de Dieu, il vous en donne, vous mangez, vous avez encore besoin, il vous en donne et vous mangez encore, mais il dit, ok, je vais continuer à lui donner. Pour quelqu'un qui dit, mais j'en ai ras, bon, j'en ai plein la gorge, j'ai dit, ok, c'est bien. Alors, qu'est-ce que tu veux? Un petit dessert? Un café? Pousse café? Terminé. Mais on reste dans les méthodes. Alors là, on est prêt à dire, vous savez, John Wesley avait dit ceci, on en reste là. Est-ce que Dieu a fini de parler? Je me souviens une fois, j'étais dans une assemblée, j'ai demandé à tous les pasteurs qui étaient là, je leur ai dit, alors, ouvrant le livre des Actes des Apôtres, chapitre 28, tout le monde crie, oh, mais c'est quelle espèce de prédicateur ça. Vous me regardez bizarrement, comme un extraterrestre. Je leur dis, je ne suis pas un extraterrestre. J'ai bien mes pieds sur terre. Et il y en a un qui me dit, oui, mais ça n'existe pas. J'ai dit, faux. Parce que le chapitre 28, Dieu veut l'écrire avec toi. Parce que la Pentecôte n'était pas finie avec les disciples. Le reste des chapitres, Dieu peut les écrire avec toi. Parce qu'il continue à se mouvoir. Christ n'est pas resté dans la tombe. Il est ressuscité. Écoutez, on n'est pas de ceux qui le gardent encore sur la croix. Pour nous, il n'y est plus. Parce qu'il est sorti vainqueur. Et c'est pour ça que nous l'appelons le vainqueur de Golgotha. C'est très intéressant. Chapitre 29. Ne me dites pas qu'il n'existe pas. Si, il existe en vous. Vous pouvez l'écrire. Vous pouvez l'écrire, chapitre 30 des Actes des Apôtres. Qu'on aurait dû d'ailleurs nommer les Actes du Saint-Esprit. Il n'a pas fini. Il n'a pas fini. Mais c'est nous les hommes qui nous arrêtons. Qui n'offrons pas la possibilité en tant d'Église, en tant qu'Église, de faire entendre parler du Christ. De faire entendre parler du Seigneur. Alors, si nous comprenons cette manière de faire de Dieu, l'Église de la fin des temps, c'est une Église aguerrie que Dieu veut. C'est une Église séparée du monde. C'est une Église séparée du matérialisme. Pas cette Église de Laodicée que Christ lui-même dit « Je l'ai vomi ». Qui pense qu'elle a tout. Moi, ce qui m'étonne, ce que j'ai fait une fois le chemin apostolique de l'apôtre Paul. J'étais à Éphèse, j'étais dans cette église, à Smyrne, Milet, partout, pour me rendre compte de visu, de la difficulté ou des difficultés que ces personnes ont eues en tant qu'apôtres. Ils n'avaient pas de vélo, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de low cost. Il n'y avait rien. Pas de CD. Pas de télé évangélique. Rien. Mais ils font un travail qui laisse l'Asie mineure évangéliser pendant 2 siècles. Mais l'Église qui croit qu'elle est riche avec des cathédrales en cristal n'est même pas capable d'amener 1000 personnes au Seigneur. Il y en a qui meurent. Comme je dis souvent, l'endroit, le lieu le plus riche au monde, c'est le cimetière. Parce que c'est là qu'on trouve les visions qui n'ont jamais été développées, qui partent dans la tombe. Mais oui. Des gens qui ont eu des bonnes pensées. Des gens qui ont eu de bonnes méthodes. Mais qui n'ont jamais transformé en quelque chose de vrai, de visuel et d'utile. Un accomplissement de la mission. Ah oui, c'est vrai que lorsqu'on reçoit une vision et qu'on commence à l'exécuter, la vision cesse d'être une vision, elle devient une mission. C'est très intéressant. Tout à fait comme un architecte qui fait le plan. Mais une fois que la maison est là, mais à quoi sert le plan? Juste à être rangé, pour dire voilà comment on a commencé. Ainsi la vision a fini par être une mission. Il y a eu la vision de Dieu, c'est votre naissance. Mais il veut que cette vision soit transformée en mission, c'est ce que vous faites pour lui. Je disais d'ailleurs à quelqu'un que la grandeur d'un homme se résume en une chose, c'est la capacité de ce qu'il aura légué à ses enfants. Quel est l'héritage spirituel que tu leur as donné? C'est ça qui va déterminer si tu as été grand ou pas. Pas les biens matériels, parce qu'après, ce sont les avocats qui se sucrent au passage, et puis la mairie qui prend une partie, parce qu'il faut payer ici, il faut payer là. bon, avec les taxes, et puis finalement on s'en trouve très mal, et voilà, on se bouffe le nez, on ne se parle plus. Parce qu'il a pris une grosse part, et machin, on est prêt à tuer, etc., etc. Mais ce matérialisme qu'avait choisi Ésaü, écoutez-moi bien, nous allons lire. La promesse de Dieu, ou plutôt de ce que Jacob va dire quand Ésaü va venir et dire « Écoute papa, est-ce qu'il n'y a pas une autre bénédiction pour moi ?» Bon, voilà. Il va lui dire « Ok, bon, je vais quand même dire quelque chose parce que tu m'y obliges. Enfin, tu me pousses à le faire. » Dans le chapitre 28, 27 plutôt, du livre de la Genèse, il dira « Ta demeure sera privée de la graisse de la terre. » Et de la rosée du ciel d'en haut, tu vivras de ton épée, c'est-à-dire de ton génie militaire. Mais tu seras asservi à ton frère, mais en errant librement ça et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. Quand on est privé de la rosée de la terre, c'est-à-dire elle ne donne rien, de la rosée du ciel et tout ce qui s'ensuit, ce qui est le symbole de la présence de Dieu, eh ben, il faut pour vivre faire la guerre quelque part. Quand on prend de là et tout ce qui s'ensuit. Mais il dira, tu briseras ton cou. Et oui, Hitler, qui s'appelait Salomon, celui qui a décidé la Shoah pour détruire les descendants de Jacob, parce qu'il était descendant d'Ésaü. Cette civilisation qui ne veut pas entendre parler de Dieu, qui lui a tourné complètement le dos. Gloire au Seigneur parce que nous sommes les privilégiés. Nous nous sommes prêts et nous avons accepté d'être sous son regard. Aussi dur soit-il, nous marchons avec lui. Aussi écrasant soit-il, nous restons fidèles, malgré nos difficultés, ce que nous en avons. Regardez ce qui se passe dans le monde, les gens jouent avec l'argent. Mais nous cherchons un 1000 euros, un 2000, un 10 000 euros pour nous équiper. Et c'est dur, il faut faire des appels, insister, s'agenouiller auprès des gens. S'il vous plaît, ça fait le Seigneur et tout ce qui s'ensuit. Non, mais eux, ils sortent là, sur la rue, ils sont nus, tout le monde paye 1 million, 2 millions, ils sont contents. Voilà. Et ça, c'est triste. Donc, cette église, telle que nous sommes, eh bien, pensons à tenir jusqu'au bout, à tenir jusqu'à ce que nous puissions arriver, quoi qu'il arrive, parce que nous avons un destin. Et après tout, il y a cette promesse du Seigneur qui dit que vos afflictions du moment produiront un poids éternel de gloire. Eh oui. Donc si je souffre aujourd'hui, mais c'est juste dans cette chair. Je me souviens une fois, je reçois une dame avec ses clichés et tout ce qui s'ensuit parce que le médecin lui avait dit « Écoute, tout le bas-ventre est pourri, on doit tout enlever. » Elle n'avait que 20 ans à cette époque. Alors elle pleure en disant « Je ne vais plus avoir d'enfant et tout ce qui s'ensuit. » Et j'étais très malade. J'étais dans ma chambre, je l'entends qui parlait au salon, il criait, j'ai besoin de prier et tout ce qui s'ensuit, parce que bon, quand ça va pas, c'est là qu'on se souvient qu'il y a un Dieu quelque part. Souvent c'est comme ça. Alors, j'entendais discuter avec mon jeune frère qui est pasteur aussi, en disant non, il est mal et tout ce qui s'ensuit. Et là, sur mon lit, je dis à Dieu, écoute, je suis malade, je vais pas sortir. D'abord, il vient me dire, mais tu dois aller prier pour cette femme. J'ai dit non. Pourquoi tu ne me guéris pas, moi? D'abord, pour que j'aille intervenir pour cette personne. Il vient me dire, c'est ton corps qui est malade, ce n'est pas ton esprit. J'ai dit, ok. Et puis il vient me dire, bon, tu veux que je te dise encore quelque chose? Je dis, ok. J'ai appris une leçon très 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 précieuse. C'est que quand on est en guerre contre Dieu, il y a une façon très simple de gagner cette guerre. C'est qu'il faut le laisser gagner. Ah oui! Avec lui, c'est Dieu qui perd gagne. J'ai dit, ok, 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 ça va, ça va. Et puis il me dit, tu portes la maladie, mais tu n'es pas malade. Et ce qu'on porte, on peut le déposer à n'importe quel moment. Je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup dans l'Église évangélique, dans le monde entier. Vous avez un cancer, vous imposez les mains sur les gens qui ont le cancer, qui sont guéris, mais toi, tu restes avec ton machin. Et c'est comme ça que j'ai appris. Même si je suis mal, je me tiens encore devant la chair. Parce que je sais que c'est le corps qui souffre, mais l'esprit qui est en moi ne souffre pas. Je peux encore libérer les oracles de l'Éternel. Et c'est comme ça, comme Paul, j'ai appris à ne pas me plaindre. Ah, là encore. L'église de ces temps de la fin, c'est une église très plaintive. Regardez aussi, à travers toute la Bible, les livres des Lamentations, c'est 2 pages. Il n'y a personne qui va dans une école pour apprendre à se plaindre. Mais quand vous entendez les gens se plaindre, ils ont des PhD, des grands doctorats en plaintologie, si je peux dire. Pour rien, on se met à maugréer. Pour rien, on se plaint. Pour rien, pour rien, pour rien, pour rien. Tout est matière à plainte. Dieu lui-même, dans sa parole, il a réservé juste 2 petites pages du livre des Lamentations. Mais on veut remplir les pages de sa vie des plaintes. Il faut arrêter. Et que l'Église elle-même apprenne à louer Dieu, même quand ça ne va pas.
Amen.
Je disais encore... au pasteur Élise, que dans le livre des psaumes, je crois que c'est 24, à partir de verset 6, il est dit ceci, si je ne me trompe pas. Remets ton sort dans les versions que vous avez à l'Éternel, il te soutiendra. Mais le problème, c'est que dans les traductions anciennes, on ne dit pas sort, on dit fardeau. Et le mot fardeau est la traduction du mot massa qui veut dire louange. En d'autres termes, remets ta louange à l'Éternel, adore-le, c'est là qu'il te soutiendra. Même quand ça ne va pas, apprends à louer. Et c'est comme ça que dans la louange, il y a au travers de l'adoration, de l'élévation de cette louange, la guérison qui vient.
Amen.
Si vous me permettez que je puisse encore introduire quelque chose de très important, parce qu'on ne se rencontre pas tous les jours, et aujourd'hui c'est une occasion d'or pour pouvoir partager et s'exercer, s'exhorter les uns les autres, parce que c'est biblique. L'église d'aujourd'hui, c'est une église qui ne veut plus payer le sacrifice. Mais pourtant, le premier niveau du messianisme, c'est la notion du sacrifice. Le deuxième niveau, le prophétisme. Le troisième niveau, la royauté. À propos du sacrifice, parfois on dit aux gens, il faut payer le sacrifice, mais réfléchissons d'abord, qu'est-ce que c'est que le sacrifice? Tout comme il y a des gens qui disent, je souffre, mais le mot souffrir, c'est être sous un autel. Le tout est de savoir sous quel autel on est. Ok? Il y en a qui sont sur l'autel du monde. Alors, ils ont aussi des souffrances qui sont liées au fait qu'ils sont sous cet état-là. Mais je crois que les véritables souffrances, C'est ce que Paul nous enseigne aussi, souffrir pour Christ. Ah, ça c'est important. Je pourrais peut-être terminer par là. Oh, j'aurais aimé avoir cette onction de Josué. J'arrête le temps jusqu'à ce qu'on en ait fini avec nos ennemis, mais malheureusement, bon. Voilà. Un niveau d'autorité sur la création. Dieu, au travers de sa parole, quand il l'a donnée, il dit, ça commence par Abraham, bien entendu, qui fait le sacrifice pour pouvoir avoir une alliance avec lui. L'alliance, le mot bérite. Ok ? Bérite qui veut dire passer entre le morceau, c'est-à-dire rassembler et unir ensemble. D'abord, le mot sacrifice veut dire rattacher, remettre. Et assez souvent dans la Bible, on voit que les gens viennent offrir les taureaux, les vaches, les génisses et tout ce qui s'ensuit. On se dit pourquoi ? Parce que c'est pour des besoins didactiques. Dieu veut montrer qu'au travers du sacrifice, que c'est toi qui devrais être tué. Mais en tes lieux et places, il y a une bête tout à fait innocente, une création, une créature différente, innocente, qui meurt. J'ai déjà été dans un abattoir. Je vous dis, c'est pas évident. J'ai déjà vu des vaches pleurer parce que c'est comme si elles disaient, mais je vous ai rien fait. Et j'ai vu des larmes couler comme ça, des vaches. Elle pleure parce qu'on sait, elle sait qu'on va la tuer. Et c'est pour ça que la personne devait amener elle-même le sacrifice et voir comment la bête souffrait en disant, c'est toi qui aurais dû y passer. Et pour que la personne apprenne. Mais le choix de ces animaux n'était pas dû au hasard, c'était lié à la parole de Dieu. Parce que la vache, ou le taureau, ou la génisse, en hébreu, dans la langue d'origine, c'est para. Le père, quand on le prononce, on ouvre la bouche. C'est pour ça que la bouche est une porte de sortie. Et ra ou le resh, dont le symbole est la tête, l'ordre ou le chef, pas la sortie, est ra, c'est-à-dire que tu es sorti de l'ordre. Quand on sort de l'ordre, qu'est-ce qu'on trouve ? On se retrouve dans le désordre. Et pour pouvoir revenir dans l'ordre qu'on a perdu, il fallait faire le sens inverse. C'est-à-dire commencer par l'ordre ra pour que ça finisse par pa. Ainsi, la sortie par ra, le retour ra pa, on retrouve rafa qui veut dire la guérison. Et c'est comme ça que lorsqu'on paye le sacrifice, le corban dont je vous ai parlé, corban où se trouve aussi keren, c'est-à-dire la corne, la brillance, l'envoi des lumières comme Christ l'a fait. Au moment où nous payons le sacrifice, Dieu nous ramène dans l'ordre que nous avions perdu. D'où le sacrifice du Christ et Jésus. Comme agneau pascal, si vous lisez très bien la parole, même le choix de l'agneau, Dieu l'avait fait à dessein parce que les Égyptiens où se trouvait Israël, ils n'aimaient pas les brebis, ils n'aimaient pas les agneaux, ils n'aimaient pas ça. Okay? Et c'est pour ça que Dieu avait choisi pour confondre Satan ce symbole-là comme le symbole de la rédemption. Ça, vous pouvez le lire dans la parole de Dieu. Et vous allez remarquer une chose. De la même manière, Abraham, qui pourtant avait déjà quitté la Mésopotamie avec son père, ça c'est encore une petite parenthèse, son père s'appelait Térak, qui était un homme qui n'était pas bien, il était idolâtre. Peut-être qu'à un moment je trouverai un temps pour vous parler de l'idolâtrie, comment ça a commencé. Parce que l'église des temps de la fin aussi, c'était une église qui est devenue idolâtre, qui a mis beaucoup de barrières et beaucoup d'intermédiaires entre Dieu et elle. Ils sont déjà sortis, mais après qu'ils soient sortis, Dieu va encore l'appeler, va, quitte, lech lecha, quitte ton pays. ta patrie et le lieu de ta naissance. Trois sacrifices auxquels correspondent trois bénédictions. Immédiatement après, c'est dans Genèse 12. Je rendrai ton nom grand, je te bénirai. Ok. Tu seras une source de bénédiction pour toute la terre. Ok. Trois bénédictions. Chaque sacrifice que vous faites, il y a une bénédiction qui suit. Et plus encore, tu rentres dans une alliance. Et à chaque alliance, il y a un signe que Dieu donne. L'alliance de Dieu avec Noé, bon, il a donné un signe. L'arc-en-ciel. L'alliance de Dieu avec Abraham, c'était la circoncision. Ok ? Qui fait le lien entre l'idée et la pratique. L'idée et la réalité. Alors, la seule façon de perpétuer une idée, c'est qu'il y ait un signe. Alors l'un n'exclut pas l'autre, tout va ensemble. Ok ? Sans un signe, on oublie vite l'idée. Voilà. Il y a eu plein d'alliances. Voilà. Pour Abraham, d'ailleurs, c'était donc la circoncision. Quand vous lisez la Bible, il y a une catastrophe. Parce que bon, quand cela arrive, il a 99 ans. Hein, et c'est lui qui va faire la circoncision pour tout le monde. Mais la question est de savoir, comme il était père, qui a fait sa propre circoncision. Alors imaginez, à 99 ans, il a dû se faire ça à lui-même. Je crois que bon, c'est pas évident. Alors vous pouvez imaginer la suite. C'est pas grave, c'est grave. Enfin, voilà. Mais le problème, c'est lequel ? Le message spirituel aussi, c'est qu'il faut se débarrasser de toute excroissance qui ne sert à rien. Au fait, c'est la recherche de la perfection. Parce que l'homme n'est toujours imparfait. Et ça, d'ailleurs, les femmes le savent très très bien. Tous les matins, il faut un crayon, il faut le miroir, il faut un peigne, il faut des tas de trucs, et ben voilà, on se regarde, parce que bon, on n'est pas être tout à fait naturellement. Mais au fait, la circoncision, c'est aussi un signe, un message du passage de ce qui est naturel au surnaturel. Enfin, je ne vais pas enseigner là-dessus, c'est pas important. Et Dieu veut effectivement que nous sommes naturels, mais il veut que nous soyons une église surnaturelle, débarrassée de toute excroissance qui ne sert à rien, d'où la circoncision du cœur. Laissez tomber tout ce qui est inutile. Laissez tomber tout ce qui ne sert à rien. Parce que Dieu ne veut pas que nous puissions être encombrés. Je voudrais rappeler ici l'expérience d'un pasteur qui meurt. Il fait l'expérience de la mort. Et tout de suite, il se voit monter au ciel. Mais il avait deux grosses valises avec lui. Et il montait. Et il voit, il arrive devant une porte, mais c'était une porte de feu. Il passe au travers de cette porte-là. Et de toutes les grosses valises qui lui restaient, il avait juste deux poignets. Et c'est là qu'il va se trouver en face du Seigneur. Il lui dit, oui, mais attends, mais j'avais deux grosses valises, mais où est-ce qu'elles sont parties? Et le Seigneur qui lui dit, n'entre ici que ce qui a été fait par amour. C'est tout ce qui te reste. Tout ce que tu as fait sur la terre, ce n'était pas par amour. Pourquoi? Et là, je voudrais vous livrer un petit secret. Jésus s'appelle Yeshua. Mais en hébreu, pourtant, Esh, ça veut dire le feu. Alors vous comprenez pourquoi Jean-Baptiste dira, moi je vous baptise d'eau. Celui qui viendra après moi, dont je ne suis pas digne de délier la courroie des chaussures, lui vous baptisera de feu et de l'esprit. Alors vous comprendrez, quand il dit que je suis la parole de feu, la parole, quand on l'annonce, il l'a descendue sous forme de langue de feu. C'est une parole qui brûle, tout à fait comme les deux disciples d'Emmaüs, ils disaient quand ils parlaient, nos cœurs ne brûlaient-ils pas? Parce que ça ne vous laisse pas tranquille. Et c'est pour ça que la parole de Dieu elle-même, c'est la lumière qui vient éclairer les ténèbres. Alors ne vous étonnez pas quand vous commencez à libérer la parole de Dieu, à libérer l'évangile de Jésus-Christ, les gens s'énervent. Pourquoi ? Parce que c'est la lumière qui est conduite par cette parole. Quand ça crée, ça vient éclairer les ténèbres d'un individu, ça provoque chez le païen l'envie de tuer. Aujourd'hui, on ne va pas vous tuer parce qu'ils savent qu'ils vont aller en prison. Vous aurez des pierres. Et les pierres, ce sont des critiques, les injures et l'exclusion. C'est ce que vit l'Église. Vous êtes sectaire. Vous êtes fondamentaliste. Bon, qui sont fondamentalistes ? C'est ceux qui pensent que vous êtes du bétail humain et que vous ne pouvez n'être même pas capable de réfléchir par vous-même. Donc on doit vous imposer le mode de réflexion. Alors, finalement, il n'y a même pas de liberté. Et la véritable liberté, c'est dans le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu venu dans la chair.
Amen.
Et c'est ce à quoi nous sommes appelés, nous tous ensemble. Et je pense qu'au travers de ce partage, la première des choses, c'est cette définition du protestantisme. C'est quoi ? C'est la remise en question de sa relation avec le Seigneur. En tant qu'Église, nous devons poser les mêmes questions. Quelle est notre relation avec le Seigneur ? Deux, sommes-nous une Église que Dieu veut dans ces temps de la fin ? Sommes-nous une Église qui gagne les âmes ? Sommes-nous une Église, comme on dit, est-ce que cette Église est au milieu du village ? Parce que les Lévites, dont le mot « lève » veut dire « cœur » ou « s'attacher à Dieu », un cœur qui s'attache. Sommes-nous encore attachés au Seigneur ? Si la réponse est non, parce que dans tous les cas, on reconnaît l'arbre par ses fruits. Quels sont les fruits que nous produisons ? Quel est le témoignage ? Parce qu'il y a deux choses que nous avons vis-à-vis de ceux qui sont dans le monde. Il y a des gens qui n'auront jamais le temps d'ouvrir cette Bible. Leur lecture, leur Bible, c'est vous, c'est moi, notre comportement, ce que nous faisons. Tout à fait comme Élie, quand il passait, sans dire quoi que ce soit, les gens disaient, cet homme est un prophète. On le voyait ressusciter, il a ressuscité les morts. Et comme ça, les gens l'ont vu, etc., etc. Et les gens l'ont appelé homme de Dieu. Et je pense qu'il est aussi temps de comprendre qu'il y a plein de bonnes choses que nous faisons, mais pour des mauvaises raisons. Bien entendu, j'ai cité Élie. Évidemment, il fait descendre le feu, les chefs des 50, ils sont grillés, ils font passer au barbecue, paf, et tout ce qui s'ensuit, il fait trembler tout le monde. Mais curieusement, il va se cacher dans une grotte, écoute, il est déprimé complètement, il va dire à Dieu, je ne suis pas meilleur, ils ont tué tous tes prophètes en Israël. Il pensait que Dieu allait lui dire, oh non, non, je ne veux plus continuer à te servir. Il pensait que Dieu allait lui dire, oh non, s'il te plaît, Élie, allez, saisis-toi, non, non, non. Il dit, ok, tu ne veux pas, allez, tu vas oindre Azaël et Jéhu. Et Élisée sera prophète à ta place. Je pense qu'il était surpris, oh non, attends, il dit, non, non, tu l'as voulu, il faut que ça soit comme ça. Mais au moins, il lui dira, sors de là trois fois et poursuis ton chemin. Il est temps aussi que l'Église, nous puissions sortir de nos grottes pour poursuivre le chemin que le Seigneur nous a tracé. Et je ne voudrais pas abuser de votre patience. Je pense que vous m'avez suffisamment écouté. Il est 16h. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime tous. Amen.
Amen.
Je vous ai donné des grands titres, finalement, parce que ce matin, par exemple, je vous ai parlé de Vermisseau de Jacob. C'est des enseignements que je donnais pendant un temps assez long. Si vraiment vous voulez recevoir, avoir de la profondeur, je peux envoyer des CD à Élise pour les personnes qui veulent une croissance, une profondeur avec le Seigneur. Nous sommes dans le corps du Christ, je pense que ça peut vous aider. Il y a des DVD, des enseignements que j'ai donnés sur la divinité de l'âme. Ça, ici, je vous ai donné juste quelques exemples et quelques paroles, mais le développement de ces enseignements, je peux mettre ça à votre disposition, si vous le désirez. et que le Seigneur vous bénisse.
Amen.
Amen.
Y a-t-il des questions éventuellement?
Oui, j'ai envie de vous dire, vous avez parlé de la prière. Vous avez dit que pour la prière, il y a des lois. Je voudrais bien que, si possible, développer un petit peu ce sujet.
Est-ce que vous me donnez quelques minutes pour développer ce sujet?
Oui.
Très bien. Nous allons nous replonger dans la parole de Dieu. Regardez le livre de la Genèse. Chapitre 22. Voilà.
Il y a des gens qui n'ont pas écouté la discussion.
Est-ce que je peux avoir aussi un micro portable, hein? Jésus.
On peut répéter la question.
Oui, je vous demandais s'il vous plaît que vous avez parlé de la prière et vous avez dit qu'il y avait des lois, etc. Je voudrais avoir un peu plus d'explications par rapport à la prière.
D'accord.
Merci.
Voilà. Regardez dans le livre de la Genèse, hein, chapitre 22. Parce que Dieu communique des réalités spirituelles parfois sous forme des contes. C'est soit des symboles, soit des faits, ok? Et il faut savoir décrypter ce qui est dit. Chapitre 22, verset 3. Abraham se leva de bon matin. Ok? Nous sommes encore là, nous sommes encore, je suis encore avec vous, vous êtes encore avec moi? Cette prière du matin, ok, est symbolisée par Abraham qui est le père. Mais en soi, c'est le matin que le père fixe des objectifs pour vous. Parce qu'il est écrit que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Ok? C'est pour cela qu'en chez les Juifs, ils appellent cette prière Shaharit. Écrivez selon la consonation que vous voulez, c'est la lettre Sh. S-H ou C-H. La prononciation reste la même. Ok? Il y a le deuxième niveau de prière. C'est la prière de l'après-midi. Ok? Cette prière, c'est la prière du fils d'Isaac. C'était aux heures de l'après-midi, quand il était dans les champs. Elle s'appelle en hébreu Mina. M-I-N-H-A. Ok. Retenez juste l'initiale M. Et cette prière, donc la Mina, signifie la consolidation de l'objectif du Père. Et enfin, nous voyons Jacob. Lui, c'était pendant la nuit qu'il recevra le rêve, parce que c'est le temps de confusion et le temps des ténèbres, le temps des combats. Maintenant, La première, l'initiale de la première prière, Shaharit, c'est Sh. L'après-midi, Mina, c'est M. La dernière, c'est Avrit, vous avez retenu, A. Maintenant, si vous prenez le Sh, le M et le A, vous arrivez à quoi? Vous arrivez à quoi? Shema, qui est la profession de foi du peuple de Dieu, qui veut dire écoute. Ok? Shema Israël, ça part de là. Mais ce Shema-là, c'est aussi la combinaison de deux choses. Shemaim Malout, c'est-à-dire la royauté de Dieu. Alors, dans la tradition juive, la prière du matin, le Shaharit, la prière de l'après-midi, la Mina, la prière du soir, la Vrit, ces trois prières, on l'appelle la Tikkun, qui veut dire la réparation de la création. Pourquoi? Plus une machine est sophistiquée, plus elle demande de l'entretien. Quelqu'un a déjà vu un marteau? Alors, un marteau a besoin de quel entretien? Rien. On tape avec jusqu'à ce qu'il se casse. On s'en occupe pas. Et à la limite, on le jette, il tombe. Hein. On dit pas, oh là là, il va avoir mal à la tête. Non. Parce que c'est pas quelque chose de sophistiqué. Mais quand on a un vélo, bon, et on va monter, on s'assure que bon, il y a une chaîne, que tout va bien. Une voiture, on ne peut pas rouler avec pendant 100 000, 200 000 km sans entretien. Plus c'est sophistiqué, quand c'est un avion, là c'est encore plus grave. Il n'y a personne qui va l'arrêter en l'air pour dire, voilà, il y a un pneu qui est crevé. Et avant de décoller, on doit l'entretenir. Quand il atterrit, la première des choses, c'est de tout vérifier. Voilà. Alors imaginez que l'homme est une machine extrêmement sophistiquée. C'est pour cela que Dieu, au matin, il fixe l'objectif. Le soir, cette machine, ces objectifs doivent être confirmés. Et le soir, le moment des combats, le moment des confusions, on rentre dans une autre dimension de combat. C'est à la fin que Dieu vient réparer la création. Pourquoi? Parce que Dieu sait que ce monde est un monde très agressif. On vit dans l'adversité. Vous ne pouvez pas sortir et revenir tel que vous étiez. Parce qu'il y a des gens qui vous ont grillé la priorité, vous vous êtes fâché, énervé, et tout ce qui s'ensuit. Écoutez-moi, c'est prouvé scientifiquement aujourd'hui que lorsque vous vous fâchez pendant un court moment, votre immunité, l'immunité du corps, s'arrête pendant 6 heures. Alors, imaginez que vous avez des lèvres retroussées jusqu'à la narine pendant 8 mois. Vous dormez avec votre colère, vous vous réveillez avec. Et c'est pendant ce temps que votre immunité s'est arrêtée que le diable vient mettre la maladie. Ainsi Dieu dira dans sa parole que le soleil ne se couche sur ta colère. Parce qu'il sait pourquoi. Et si vous ne priez pas, selon ces lois-là, quand est-ce qu'il va réparer la création? Parfois on vit comme ça, comme une machine sophistiquée. Et puis on ne vient pas vers lui et dire, écoute, c'est toi qui m'as crié, ben, écoute, regarde s'il y a quelque chose qui va pas. Mais lui seul sait et il voit. Je vous ai montré son économie. Il savait qu'Israël allait adorer le veau d'or. Il savait. C'est pour ça que dans son économie, il fait d'abord fabriquer le tabernacle, c'est-à-dire ouvrir la possibilité pour lui d'être encore dans la présence de l'homme avant même qu'il ne tombe. Ça, c'est l'économie de Dieu. Créer le voisinage de l'homme, parce que le tabernacle, okay, le lieu de sa présence, on appelle ça la Shérina, dont la source, Sharen qui veut dire le voisinage, c'est-à-dire un accompagnement de Dieu. Sinon, ça se serait arrêté. Vous avez péché, ok, mourir, c'est fini. Voilà. Je peux vous donner encore un enseignement beaucoup plus profond sur la prière. Je vous donne juste des indications. Et c'est pour cela aussi que pour ce chemin-là, on ne peut pas prétendre écoute. On ne peut pas prétendre servir quelqu'un qu'on n'écoute pas au départ. Voilà. Il y a souvent un désordre ou des déceptions que je rencontre parmi les serviteurs de Dieu. Ok ? Ou même par moment, ils développent l'évangile de taliban, la condamnation, parce qu'ils viennent, ils imposent la main sur tout le monde, là, vous allez guérir, vous guérir, vous allez être guéri, et puis après, ça ne va pas. Ils disent, oh, mais écoute, tu dois avoir la foi, parce que moi aussi, tu en as aussi petite, comme grain de sel, mais ça va marcher, mais pourquoi la tienne même ? Pourquoi tu n'utilises pas la tienne pour me guérir si moi, je n'ai pas la foi ? Mais utilise la tienne, tiens. Alors, Dieu ne dit pas que c'est la foi du malade. Moi, si j'ai la foi, donc ça devrait marcher aussi. Alors finalement, on finit par condamner les gens au lieu de les aider. Mais où se trouve le problème? Jésus, quand il guérissait les malades, tous ils étaient guéris. C'est ce que dit la Bible. Alors quel est notre problème aujourd'hui? Nous ne faisons pas ce que Jésus faisait. Parce que lui, il écoutait. C'est pour cela qu'il dira, je ne peux rien faire si je n'ai pas entendu mon Père le faire. Ou si je n'ai pas vu mon Père le faire. Okay. C'est pour ça que la transmission, selon le mode de Dieu, un père c'est ab. Ab, c'est un mouvement de A vers B. Et ab, qui va créer Eben ou Eben, qui devient la pierre, la solidité, mais ça part toujours du père au fils. C'est le mode de transmission, d'une génération vers une autre. Voilà. Et alors, maintenant, ce chemin écoute, ou le chemin madout, ok, c'est le temps aussi l'homme doit être devant Dieu pour lui montrer que son activité et sa vie ne dépend pas de son économie, mais ça dépend de lui. C'est pour cela que ce temps qu'on appelle le Shabbat, c'est un temps où l'homme doit rester avec son Dieu dans sa présence. Et il a besoin qu'on lui fasse sentir qu'il est le roi et qu'il exerce tous ses attributs, toute son autorité de roi sur vous, entre autres choses, la réparation, la régénération. Et c'est comme ça, quand nous sommes dans sa présence, mais au travers de la prière, il nous régénère. Je vais vous donner une indication en regardant le livre de Daniel, chapitre 6. Nous allons comprendre quelque chose d'extrêmement important. Daniel, chapitre 6. Voici ce que dit l'Écriture. À partir du verset 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Yerushalayim. Et regardez ce qui suit, c'est très intéressant. Si vous avez des Bibles, qu'est-ce qui est écrit?
Trois fois le jour, il se mettait à genoux.
Trois fois le jour, il se mettait à genoux. Pourquoi trois fois le jour, il se mettait à genoux? Quels sont ces trois fois le jour? Et c'est dans ces conditions que le Seigneur exerce la tikkun, c'est-à-dire la réparation de la création. C'est de cette manière qu'il a reçu le secret de Dieu, ce qu'on appelle le sod en hébreu. Et pourquoi aujourd'hui les gens n'ont pas la révélation et la profondeur des choses de Dieu? C'est parce que bon, ils ne laissent pas le Seigneur dans la prière, ok, les réparer et leur ouvrir ceux qui ne connaissent pas. C'est tout.